7h18, Pierre-Yves, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce matin, justement, après avoir vu ce rapport des Nations Unies concernant les changements climatiques, tu nous parles d'un investissement, d'un fonds, là, un partenariat d'investissement durable, et la Caisse de dépôt et de placement du Québec embarque là-dedans.
Oui, avec Generation Investment Management, donc le fonds lié à Al Gore, on investit ensemble 3 milliards de dollars américains dans des investissements dits durables. Là, j'ai dit, écoute, durable, ça veut dire quoi? On va aller voir en gestion de risque. Il y a une affaire qui s'appelle ESG. Non, ce n'est pas l'école des sciences de la gestion de l'UQAM. C'est trois types de facteurs, environnementaux, sociaux et en gouvernance. Et quand on parle de développement durable au sens large et de responsabilité sociale, ce sont ces trois facteurs-là. Donc, par exemple, oui, la gestion des déchets, oui, la gestion de la réduction des gaz à effet de serre, mais il y a aussi des critères sociaux comme la prévention des accidents, la formation du personnel, le respect des droits et des lois et le critère de gouvernance, par exemple, l'indépendance du conseil d'administration. Donc, ici, on nous annonce un premier investissement du regroupement qui est dans une fintech de gestion de placement, FNZ. Donc, tu vois un peu que le développement durable a au sens large parce que FNZ permet à quoi? Permet à des investisseurs de couper dans les coûts de gestion et de gérer de façon un peu plus autonome leur portefeuille et de prendre des décisions d'investissement peut-être plus transparentes et éventuellement, Paul, éventuellement pouvoir choisir des placements verts. Donc, on voit ici que des fois, il y a beaucoup de marketing alentour d'une patente, mais là, on démontre une volonté d'aller investir dans le développement durable. Mais ça ne veut pas dire qu'on a investi dans des technologies vertes puis de développement vert puis qu'on n'émet plus de CO2. Par définition, produire, ça pollue. T'sais, même quand vous faites une voiture électrique, vous polluez parce que la production de la batterie génère de la pollution, génère de l'énergie.
Non, mais c'est comme quelqu'un qui me disait en fin de semaine, est-ce que le fait qu'on fasse disparaître l'auto conventionnelle, ça va automatiquement baisser les problèmes de pollution? La réponse est non. Tu viens de le démontrer. C'est-à-dire que les batteries, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
Puis, pas rien que ça, c'est que t'as beau faire ton compost chez vous, si tu prends ton voyage par année à Punta Cana, tu viens tout annuler tes objectifs. Là. Non, mais des fois, il y a beaucoup de gens que je vois.
Oui? Non, j'ai hâte de voir dans quoi ils vont investir.
Oui.
C'est assez large, comme tu dis, là.
Oui, puis la technologie verte, ça peut éventuellement être payant. C'est-à-dire, si à un moment donné, on prend, par exemple, une entreprise qui réussit à produire de quoi qui est moins polluant et qu'on investit massivement là-dedans puis que ça devient rentable et tout le monde va adopter cette technologie-là, oui, ça devient un investissement rentable. Mais c'est long, un investissement avant qu'il soit rentable et dire du jour au lendemain qu'on va tout virer vert, même si on voit l'urgence d'agir, même si l'humanité est en cause, même si la survie de la population est en cause, le cash parle toujours d'un côté un peu plus plate et rationnel et court terme, parce que celui qui investit va peut-être être mort au moment des conséquences.
Bon, on parle de Netflix.
Oui, parlant justement d'investissement à long terme. Te souviens-tu l'époque où Netflix t'envoyait ton DVD par la poste?
Ça fait longtemps quand même, là, oui.
Ça fait longtemps, mais Netflix, à l'époque, tu pouvais commander ton DVD, te l'envoyer par la poste et tu le retournais. Et à l'époque, on trouvait le modèle d'affaires bizarre. Mais là, il y a un investissement de 1 milliard de dollars aux États-Unis, la création de 1000 emplois, et Netflix va produire encore plus. Et je me suis dit, bon, ce matin, parlons de Netflix. Je suis allé la dernière fois au Club Vidéo il y a 2 semaines, Paul. J'allais encore là. Je faisais partie de ces derniers des Mohicans qui allaient au Club Vidéo.
Je pensais qu'il restait plus de Club Vidéo, moi.
Oui, il y en a encore. Et j'ai payé des frais de retard plus élevés que l'abonnement Netflix pour 2 mois. Donc, j'ai compris une chose. Il est peut-être temps que je devienne aussi homo economicus au niveau du Club Vidéo. Donc, la rentabilité est démontrée. C'est ça qui est spectaculaire avec Netflix. C'est qu'on a généré, écoute, on était en juin 2016, on générait à peine 2 milliards de revenus et à peine 41 millions de bénéfices nets pour un trimestre. 2 ans plus tard, au 30 juin 2018, on génère près de 4 milliards de revenus pour un trimestre et 384 millions de bénéfices nets. Donc, ça ne cesse d'augmenter au niveau de la rentabilité. Deuxième point intéressant pour Netflix, les investisseurs sont au rendez-vous. Écoute, l'investisseur aujourd'hui qui investit dans Netflix paye 159 ans de bénéfices qui lui est attribué dans les états financiers. Donc, il est tellement confiant que ça va dominer tous les niveaux de consommateurs au niveau de la demande en ligne, que on paye 159 ans de bénéfices nets. Un investissement de 1000 $ en 2012 vaut maintenant 41 000 $. Donc, tu aurais mis ton petit 1000 $ en 2012, aujourd'hui, tu aurais un cash down de maison ou une mise de fonds plutôt. Et les modèles d'affaires, ils parlent beaucoup aux gens. Écoute, 14 piastres, et là, si tu passes pas par Apple, tu payes pas ta TPS TVQ pour ne pas nuire à la classe moyenne, comme disait Justin Trudeau. Et ce qui est fou là-dedans, c'est comme ils peuvent pas contrôler où tu regardes l'information, parce que tu peux le regarder sur ton téléphone ou ton ordinateur, mais tu peux être 4 familles sur un compte. Donc, il y a plein de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un écran par foyer.
Ben, ça, c'est vrai. Ça, tu peux avoir,
s'abonnent à 4.
C'est ça. T'as 4 profils différents.
Ben oui, fait que là, tu payes 4$ et moins par mois, puis t'as la télé. Donc, l'effet des réseaux de Netflix va lui permettre d'atteindre un nombre d'utilisateurs tellement important que dans quelques années, on a de la misère à voir comment la télé conventionnelle peut survivre. Avec Walmart qui investit avec MGM, avec Amazon qui donne avec Prime plein d'avantages, dont l'écoute en continu. Qu'est-ce qui va arriver avec un modèle, tu sais, comme par exemple Radio-Canada, où on veut vendre l'extra, mais on sera pas capable d'entrer en compétition avec ce genre de modèle-là. Même Amazon, au niveau des revenus, on est rendu vraiment au niveau des services. Oui, on nous vend des affaires puis des produits qu'on achète en ligne, mais on en profite pour nous abonner à Prime, et on voit très bien que chez Amazon, dans le dernier trimestre, sur 53 milliards de revenus, il y en a 21 milliards que c'est des services, donc ce n'est plus transporter des livres ou des produits, c'est rendu te vendre un ensemble de produits, dont de la musique, dont des vidéos. Et il y a le côté pratique de ne plus payer de frais, de plus se déplacer avec les enfants au club vidéo, de ne plus dire « faut que je rembobine la cassette ». Non, ça, ça n'existait plus. Mais il y a surtout que ça plante pas. T'as plus le menu non plus. Tu sais, t'es dans Netflix, là. T'as pas l'espèce de menu qui dit « si vous piratez, vous payez 250 000 d'amende et risquez la prison ». Donc, tu sauves du temps aussi. Alors, tout ça fait en sorte que Netflix nous a proposé un modèle qui va dépasser tous les autres. Et je me demande ce qui va arriver à nos bons canaux de télévision bientôt.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Salut.
Salut, 7h24.